أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رفع ایک لفظ ہے گزشتہ دو تین خطبوں سے اسی طرح
dans mes deux précédents sermons j'ai expliqué le terme arafa qui signifie exalter ou élever la position de quelque chose ou de quelqu'un. Cela s'applique pour les choses matérielles et cela signifie aussi exalter la position ou le statut de quelqu'un. Et c'est Allah qui est Ar-Rafi, c'est lui qui exalte et qui donne des positions élevées. J'ai aussi évoqué cet attribut dans un de mes précédents sermons. Allah est Ar-Rafi. Il est celui qui exalte et il est lui-même sur une position élevée, une position que l'homme ne peut imaginer. En dépit d'être proche, Dieu est très éloigné. En dépit d'être présent partout, il est très élevé. Allah a utilisé le terme Rafi al-Darajat pour sa propre personne. C'est-à-dire qu'il est celui qui est très élevé. Il est celui qui possède des attributs exaltés. Des attributs que l'homme ne peut imaginer et il ne peut y avoir position plus élevée que la position de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu est le Rabbul Arsh, qu'il est le Seigneur du trône. Mais cela ne veut pas dire qu'il est assis sur son trône et qu'il est loin de toutes les choses, mais Dieu se trouve partout. Le Messie premier l'Islam explique ce terme en disant que le trône de Dieu est une position très élevée, très éloignée que l'on ne peut voir, et c'est une position qui recouvre tout l'univers. L'on ne peut dire, na'ouzou billah, que le trône de Dieu est proche du ciel et loin de la terre. Maudite est la personne qui pense ainsi. L'arche de Dieu ou le trône de Dieu est proche de la terre et du ciel. Il déclare que l'arche signifie sa position élevée, le fait que Dieu est exempt de toute souillure, et cela signifie que Dieu est présent partout. Tout comme il déclare Huwa ma'akum aina ma kuntum, c'est-à-dire que Dieu est avec vous là où vous vous trouvez. Allah déclare aussi Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, c'est-à-dire il n'y a aucun entretien secret à trois qu'il n'en soit le quatrième. Et il déclare aussi « Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablul warid », c'est-à-dire que nous sommes plus proches de l'homme que sa veine jugulaire. Il est évident à la parole de Dieu, cette parole expliquée par le Messie premier des Salam, que Dieu est proche de l'homme en dépit d'être éloigné, en dépit du fait qu'il est sur son trône. Il est proche de l'homme et Dieu se trouve partout. Et Allah déclare qu'il est plus près de l'homme que sa veine jugulaire. Et quant à ceux qui sont proches de Dieu, eh bien, ces gens manifestent davantage ces attributs et progressent davantage dans ce domaine. Dieu leur accorde davantage sa proximité. Et Dieu les protège de leurs ennemis. Et Dieu exalte aussi leur position. Mais Allah déclare aussi que le trône de Dieu est très élevé et aucun humain ne peut imaginer sa position. Le Messie premier, alayhi salam, explique cela davantage en citant le Saint-Coran où il est dit « Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh » Allah est celui qui a érigé les cieux sans colonne qui vous soit visible. Puis il s'est installé sur le trône. Le Messie premier alayhi salam déclare que l'on ne peut avoir des doutes en se disant « Dieu n'était-il pas sur son trône auparavant ?» Cela nous fait comprendre donc que le trône de Dieu n'est pas une position physique, mais cela signifie ses attributs éloignés. Dieu est celui qui a créé toutes choses et il a fait refléter sa lumière dans le soleil et dans les étoiles. Et c'est lui qui a créé l'homme à son image, et c'est là une métaphore, et il lui a insufflé son esprit. Donc, il a fait de lui une ressemblance, mais puisque personne ne peut être semblable à lui, c'est pour cette raison qu'il a dit qu'il s'est établi sur son trône. Et ainsi, il a prouvé qu'il est très élevé, qu'il est exempt de tout défaut. En créant toute chose, Dieu s'est élevé à la position la plus exaltée. Il n'est pas comme la création. C'est vrai qu'il a créé toute chose. C'est vrai qu'il a paré l'homme de ses propres couleurs. Mais en dépit de tout cela, Dieu se trouve à la position la plus élevée. Voilà donc notre Seigneur, celui qui possède tous ses attributs, celui qui est Rafiu Darajat, celui qui est le maître du trône. En dépit de sa position élevée, il est plus proche de l'homme que sa veine jugulaire. Et en dépit de cette proximité, le regard de l'homme ne peut l'atteindre. c'est Dieu lui-même qui se manifeste à l'homme. C'est lui qui se manifeste à ses proches, tout comme il déclare La Tudrikul Absoir, Wahwa Yudrikul Absoir. C'est-à-dire, les regards ne peuvent l'atteindre. C'est lui qui atteint le regard de l'homme. L'homme ne peut voir Dieu en raison de ses capacités, en raison de ses connaissances. C'est Dieu lui-même qui se manifeste à lui. Dieu est celui qui se trouve dans l'invisible et l'on ne peut avoir de concept physique de Dieu. Alors que les chrétiens, en raison de leur doctrine erronée, ont déifié Jésus-Christ, qui était un choisi, un prophète de Dieu. La position de Dieu est très exaltée, très élevée. Il n'a besoin de personne. Et Dieu est exempt de tout défaut. Alors qu'Allah lui-même déclare à propos de Jésus et de sa mère qu'il consommait de la nourriture. D'une part, cela prouve que ces deux personnes sont décédées, et d'autre part, cela prouve aussi que celui qui a besoin de manger pour se maintenir en vie ne peut être Dieu et ne peut subvenir non plus aux besoins des autres. Et il y a d'innombrables autres arguments qui prouvent que Jésus-Christ était un être humain. À l'exception des Ahmadis, il y a grand nombre de musulmans qui, en toute ignorance, sont en train de suivre leurs oulémas, et ces oulémas qui ne comprennent pas le Saint-Coran et qui pensent que ces deux versets qui se trouvent dans le Saint-Coran où il est dit à propos de Jésus-Christ « Wa rafiuka ilayya wa rafaullahu ilayhi » Eh bien, ils pensent que cela signifie que Dieu a élevé physiquement Jésus-Christ au ciel. Que Dieu a élevé physiquement Jésus-Christ au ciel et qu'un jour Jésus-Christ descendra physiquement du ciel pour réformer l'humanité. Il disait que cela allait se passer au 14e siècle, mais le 14e siècle est écoulé. Et maintenant, ils disent qu'il viendra au dernier jour. Et ils inventent d'autres histoires similaires. Les musulmans ne comprennent pas qu'en raison de leur déduction erronée, ils sont en train de renforcer l'argument des chrétiens. Car les chrétiens vont prendre ce concept des musulmans et vont ainsi prouver la suprématie de Jésus-Christ sur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il y a certes certains érudits et certains éléments dans les pays musulmans qui acceptent que ces versets sont en train de prouver que Jésus-Christ est décédé de mort naturelle. Quelques jours auparavant, le président de l'Iran a fait une déclaration dans laquelle il s'est adressé aux chrétiens et l'on peut déduire de ces déclarations qu'il croit que Jésus-Christ, Hadrat Isa alayhi salam, est décédé. Dans sa déclaration, il n'a rien dit de mauvais à propos du prophète Jésus alayhi salam. Mais il a prodigué des conseils aux chrétiens à la lumière des enseignements de Jésus-Christ. L'on ne sait pas dans quelle mesure ce président est dans la bonne direction, mais je veux tout simplement dire que l'on peut conclure de ses paroles qu'il croit que Jésus-Christ est décédé de mort naturelle. Et notre missionnaire qui a travaillé en Turquie, Jalal Shamsaheb, a déclaré que dans les nouvelles traductions en langue turque, les traducteurs ont traduit ces versets en disant que Jésus-Christ est décédé de mort naturelle. Mais jusqu'à présent, dans la Oumma du Saint-Prophète Mohammed, il y a nombre de gens que Rafa signifie que Jésus allait être élevé physiquement avec son corps charnel au ciel. Quelqu'un m'a écrit du Maghreb qu'il était en train de prêcher l'Ahmadiyya à un ami qui n'a pas encore accepté l'argument concernant la mort de Jésus-Christ. Et dans le sous-continent indien et dans le monde arabe aussi, il y a un nombre de personnes qui sont intéressées par la religion. Il y a ces musulmans qui maîtrisent la langue arabe, mais la majorité d'entre eux croient toujours que Jésus-Christ est vivant au ciel. Quelques jours auparavant, un ami non-Ahmadi est venu du Pakistan. Il y a un nombre d'amis non-Ahmadi du Pakistan qui viennent me rencontrer. Cet ami m'a dit que le Saint-Coran ne prouve pas la mort naturelle de Jésus-Christ. Je lui ai donné les références du Saint-Coran, mais puisqu'on n'avait pas assez de temps, il a déclaré que je vais venir après pour en parler, mais après plusieurs mois, il n'est pas retourné. Mais je veux tout simplement dire que parmi les musulmans, les ulémas ou les soi-disant exégètes ont ressassé cette question à tel point, surtout après la venue du Messie premier, l'Islam, que les gens croient que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel et que Jésus-Christ va venir physiquement une deuxième fois lui-même en personne. Mais quant aux gens de bonne nature, quelle que soit leur religion, ils sont guidés dans la bonne direction. Quelques jours auparavant, un ami chrétien anglais qui est en train de faire son doctorat est venu me rencontrer quelque temps auparavant et il est très intéressé par l'Ahmadiyya et il a dit la même chose. Il a déclaré qu'il n'accepte pas la divinité de Jésus-Christ et la rédemption. Et c'est pour cette raison qu'il est en train de se rapprocher de l'islam. Les chrétiens de bonne nature sont en train de rejeter ce concept erroné et se rapprochent de l'islam. Mais quant à ceux qui devaient défendre l'islam, ces personnes sont en train de soutenir les arguments des ennemis de l'islam. Et tous ces chrétiens qui embrassent l'islam par l'entremise de l'Ahmadiyya, ces personnes acceptent Jésus-Christ comme un être humain, comme un prophète de Dieu qui est venu pour une période déterminée et qui a quitté ce bas monde. Les musulmans basent leur croyance sur des versets du Saint-Coran. Je vais citer ces deux versets et ensuite je vais citer les commentaires sublimes du Messie promis alayhi salam. Dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala déclare « Ith qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafiuka ilayya, wa mutahhiruka min alladhina kafaru, wa ja'ilu alladhina taba'uka, fawqa alladhina kafaru ila yawmi al-qiyama, ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. La traduction est: lorsque Allah dit ô Jésus, je te ferai mourir de mort naturelle et je t'élèverai à moi et je te laverai des accusations de ceux qui n'ont pas cru et je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous concernant ce sur quoi vous étiez en désaccord. C'est un verset de la sourate Al-Imran. Et ensuite, dans l'autre verset, Allah déclare: « Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu » ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا برف الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Et qu'ils ont dit: nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il a été donné une apparence d'un crucifié pour eux. Et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce sujet. Ils n'en ont aucune connaissance sûre et ils ne font que poursuivre une conjoncture. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Tout au contraire, Allah l'a exalté à lui. Allah est puissant et sage. Le Messie, premier l'Islam, déclare à ce propos que dans ce verset, Dieu a déclaré qu'il est le sujet et qu'il a accompli 4 actions. Dieu a donc déclaré qu'il a accompli 4 actions dans un ordre spécifique. Il a déclaré: ô Jésus, je te donnerai la mort. Ensuite, je vais t'élever à moi. Et ensuite, troisièmement, je vais te laver des accusations des mécréants. Et quatrièmement, je donnerai la suprématie à tes suivants sur ceux qui ne croient pas. Je vais expliquer cela après, car il y a certaines questions qui sont posées à propos de cette partie du verset. Le Messie premier l'Islam déclare donc que ces 4 actions se passent dans un ordre naturel. Il n'y a point de doute que quant à celui qui est appelé vers Allah et qui reçoit la nouvelle « Irji'i ila Rabbik », c'est-à-dire qu'il doit retourner à son Seigneur, eh bien cette personne doit passer par la mort pour être élevée. Et à la lumière de ce verset « Irji'i ila Rabbik » et à la lumière des hadiths, l'on comprend que c'est après la mort que l'âme du croyant est élevée vers Dieu. Et cette âme doit certainement s'élever vers Dieu. Le Saint-Coran et les hadiths prouvent ce fait. Ce verset qui a été cité par le Messie premier l'Islam est « Irji'i ila Rabbik ». Le verset est « Irji'i ila Rabbiki radiyatan mardiyya », c'est-à-dire « Retourne vers ton Seigneur, toi satisfait de lui et lui satisfait de toi ». Le Messie premier l'Islam écrit à ce propos que Dieu a donné la mort à Jésus-Christ et ensuite il l'a élevé vers lui. Par exemple, à propos des pieux, l'on dit qu'il a été élevé vers Dieu. Tout comme l'on le comprend à la lumière de ce verset, Irji'i ila rabbik. Dieu est présent partout. Dieu ne possède pas de corps physique et Dieu ne se trouve pas dans une direction spécifique. Pourquoi donc dire que celui qui a été élevé vers Dieu a été élevé physiquement vers le ciel? C'est l'âme des pieux et qui est élevée vers Dieu. Ce n'est pas leur corps, leur chair et leurs os qui atteignent Dieu. Le Messie premier, l'Islam, a essayé de nous expliquer ces versets du Saint-Coran dans différentes façons et sans un cœur pur, l'on ne pourra comprendre ces paroles. Celui qui ne veut pas comprendre et celui qui n'a pas été éclairé par Dieu ne pourra pas comprendre ces paroles. Donc, je vais citer de nouveau le Messie premier, l'Islam, qui déclare à propos du premier verset que, ensuite, à propos de Jésus-Christ, Dieu a déclaré que je vais te laver des accusations des kuffars. Cela indique que les Juifs voulaient crucifier Jésus-Christ et faire croire qu'il est maudit, comme l'affirme la Torah à propos des crucifiés, c'est-à-dire qu'il sera privé de la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que dans ce verset, Dieu a donné la bonne nouvelle à Jésus-Christ qu'il va mourir d'une mort naturelle et qu'il sera honoré par Dieu et que ses ennemis échoueront dans leur tentative et ne pourront pas lui donner la mort sur la croix. Et Dieu a déclaré aussi que je vais te purifier de leurs accusations. C'est-à-dire que je vais te protéger de la mort sur la croix, de ses conséquences et du fait que l'on soit maudit et que l'on soit privé de la Nubuwa et du fait que l'on ne jouit pas de la proximité de Dieu. Ici, le terme tawafa est une indication subtile pour nous faire comprendre qu'il sera protégé de la mort sur la croix, car le terme tawafi signifie mourir de mort naturelle. Cela signifie mourir d'une mort naturelle et cela ne s'applique pas à une mort violente. C'est pour cette raison que les exégètes disent que inni motawafika signifie inni mumituka, c'est-à-dire mourir de mort naturelle. Motawafika ne signifie pas mourir d'une mort violente. Le terme tawafi s'applique à la mort naturelle. Il y a aussi une autre indication dans la troisième partie du verset. Il dit « Wa mutahhiruka min alladhina kafaru ». La partie où il est dit « mutahhiruka min alladhina kafaru » se trouve en troisième position. Et c'est dans l'ordre naturel des choses. Il est dit dans cette partie du verset que Dieu va purifier Jésus-Christ et va le laver des accusations des incroyants. Après la mort naturelle, Dieu va élever Jésus-Christ et va le protéger des accusations mensongères des incroyants. Et en quatrième position, il est dit « Wajarilu ladhina tabauka faqa ladhina kafaru ». Et cela aussi est dans l'ordre naturel des choses. Car la suprématie des suivants de Jésus-Christ va se passer après ces quatre étapes. Donc tout cela est en accord avec l'ordre naturel des choses. Et tout cela prouve la grandeur et l'éloquence du Saint-Coran. L'ordre de mention est en accord à la sagesse et selon l'ordre naturel des choses. Cela prouve donc que le Saint-Coran est empli de sagesse, car toute chose est mentionnée dans un ordre naturel. Et dans le Saint-Coran tout entier, on trouve cet ordre naturel. Par exemple, dans la sourate Al-Fatiha, il est dit en premier que Dieu est Rabbul Alamin, ensuite Rahman, ensuite Rahim et ensuite Malik Yawmiddin. Cela nous fait comprendre que la grâce évoquée en premier est la grâce générale et en fin de compte, on a mentionné cette grâce spéciale. Donc, ces quatre aspects sont en accord à l'ordre naturel des choses. Et cela est en accord à l'éloquence du Saint-Coran. Le Saint-Coran est un livre parfait, un livre éloquent. Et le Saint-Coran est en train de suivre cet ordre naturel. Mais les mollahs d'aujourd'hui changent les paroles de Dieu à l'instar des Juifs. Et afin de prouver le fait que Jésus-Christ est vivant au ciel, ils ont remué ciel et terre. Et ils s'entêtent à rejeter les paroles du Saint-Coran. Et ils rejettent l'ordre des choses dans la mention de Dieu. Ils rejettent l'ordre des deux paroles de Dieu. Ils disent que Mutahhiruka min alladhina kafaru et Wajahidul ladhina tabauka se trouve dans l'ordre naturel des choses, mais selon eux, Inni Mutawafika wa Rafiuka Ilayya ne se trouve pas dans l'ordre naturel des choses, selon eux. Selon les mollahs, Mutahhiruka min alladhina kafaru et ce qui suit après sont dans un ordre naturel. Mais Mutawafiuka wa Rafiuka Ilayya ne sont pas dans un ordre naturel selon eux. Et selon eux, Mutawafiuka vient en deuxième position et Rafiuka Ilayya doit venir en première position. Le Messie premier, alayhi salam, déclare que ces personnes essayent d'interpeller la parole éminente de Dieu et ils essayent de porter atteinte à l'éloquence de la parole divine. Alors que cette parole est une parole des plus éminentes, ces personnes essayent d'interpeller ces paroles et de changer l'ordre des choses mentionnées. Ils acceptent que deux énoncés sont en accord à la nature et que les deux premiers énoncés ne le sont pas, et que ces deux premières paroles ne sont pas en accord à l'éloquence de Dieu. C'est-à-dire, ils essayent d'inverser l'ordre des premiers énoncés. Mais en dépit de leur interpolation à la méthode juive, ils n'arrivent pas à voir gain de cause. Car même si on accepte que Rafioka Ilaya vient avant Motawafik, même dans ce cas, il n'aurait pas gain de cause, car le sens sera que, ô Jésus, je vais t'élever à moi et je vais ensuite te donner la mort. Et l'on ne peut accepter pareil concept, car cela voudrait dire que Jésus-Christ va mourir au ciel. Parce que il est dit à Rafa et ensuite après il est dit qu'il va lui donner la mort et on n'a pas fait mention de descente de Jésus-Christ. Cela veut dire tout simplement que Jésus-Christ va mourir au ciel alors. Et pour cela, c'est-à-dire pour avoir un autre sens, on va devoir ajouter une autre partie, et on va dire Ya Isa, Inni Rafioka, Wa Munazeloka, Wa Motawafika. Et c'est là qu'on va pouvoir accepter leur concept. Mais ce ne sera plus la parole de Dieu, ce sera la parole d'un fiefié interpolateur qui se serait ingéré dans la parole de Dieu. Ce seront les paroles d'un interpolateur qui aura indécemment perverti la parole de Dieu. Et il n'y a point de doute que pareille action entre dans la catégorie de l'apostasie. Ensuite, le Messie premier l'Islam a cité l'exégèse de Hadrat Ibn Abbas. Et à propos de ce verset, Ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya, il est dit qu'Ali ibn Talha a déclaré que le sens de ce verset est inni mumituka, c'est-à-dire que je te donnerai la mort. Cette explication est basée sur les autres paroles de Dieu. Par exemple, il est dit Qul yatawaffakum malakul maut, c'est-à-dire l'ange de la mort vous donnera la mort. Ensuite, il est dit Alladhina tatawaffahumul malaikatu Tayyibin, ceux que les anges font mourir pendant qu'ils sont purs. Et il est dit aussi Alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, ceux que les anges font mourir pendant qu'ils nuisent à leurs âmes. Selon Hadrat Ibn Abbas, Jésus-Christ est mort de mort naturelle. Et Ibn Abbas est celui qui est en tête de liste concernant la connaissance du Saint-Coran. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a prié pour que Hadrat Ibn Abbas puisse avoir une bonne connaissance du Saint-Coran. Il n'y a pas uniquement trois versets à ce propos, mais le Messie premier l'Islam déclare que dans le Saint-Coran tout entier, là où l'on trouve mention du terme Tawafa, dans tous ces endroits, le terme Tawafa signifie la mort. Ensuite, le Messie premier l'Islam souligne l'importance de la mort de Jésus-Christ selon le Saint-Coran. Il déclare que si Jésus-Christ a été élevé physiquement au ciel, le Saint-Coran aurait dû déclarer « Ya Isa inni mutawaffika, thumma muhyika, thumma rafiuka, ma'a jasadika ila sama » C'est-à-dire, ô Jésus-Christ, je te donnerai la mort, et ensuite je te ramènerai à la vie, et ensuite je t'élèverai avec ton corps charnel au ciel. Mais dans le Saint-Coran tout entier, après Mutawaffi, on trouve mention uniquement de Rafioka. Il n'a pas été dit Thumma Muhyika. Si vous voyez pareille mention dans le Saint-Coran, alors indiquez-moi cet endroit. Je peux dire en toute certitude que Jésus-Christ est mort de mort naturelle. Et là où il a été dit « Rafioka » ou « Barrafaullahu ilayhi », cela signifie l'élévation de l'âme de Jésus-Christ. Cela s'applique à tout croyant. Alors on ne peut rejeter une vérité pour accepter un mensonge. Le Messie premier salam déclare que le Saint-Coran déclare la même chose du début à la fin. Il déclare que dans 23 endroits, on a utilisé le terme tawaffa, et dans tous ces endroits, tawaffa signifie mort. Et dans son ouvrage Isra Awham, le Messie premier salam a cité 30 versets qui prouvent que Jésus-Christ est mort de mort naturelle. Le Messie premier salam nous a laissé une littérature vaste dans laquelle il a prouvé la mort de Jésus-Christ à la lumière du Saint-Coran et des hadiths. Et ces arguments sont clairs et nets. Et des livres des chrétiens, le Messie premier salam a prouvé la mort de Jésus-Christ et a prouvé que Jésus-Christ est décédé de mort naturelle et a été élevé spirituellement et qu'il est un prophète de Dieu et non pas le Fils de Dieu ou Dieu. Qu'Allah guide les musulmans pour qu'ils puissent abandonner leur croyance erronée que Jésus-Christ a été élevé physiquement au ciel et qu'il descendra physiquement du ciel un jour, et qu'ils arrivent à accepter le Messie du Saint-Prophète qui est venu au moment opportun, et qu'ils accomplissent la parole du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, en transmettant les salutations du Saint-Prophète au Messie premier, l'Islam, qu'il agisse ainsi afin qu'il puisse jouir du vrai bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et les Ahmadis doivent aussi se souvenir du fait que ce sont les livres du Messie premier, l'Islam, qui présentent des preuves évidentes pour clouer le bec de nos ennemis. Je n'ai cité que quelques dires du Messie premier, l'Islam. Si je commence à citer toutes ces paroles, cela va prendre plusieurs heures. Dans ces paroles, le Messie premier, l'Islam, a prouvé la mort naturelle de Jésus-Christ et son élévation spirituelle. Certaines personnes qui vivent ici depuis longtemps, ceux qui ont grandi ici, pensent que les livres du Messie premier, alayhissalam, sont très difficiles. C'est pour cette raison que l'on doit écrire d'autres livres qui sont en accord aux aptitudes des gens d'ici. Certes, vous devez écrire, mais vous devez baser vos écrits sur les paroles et les dires du Messie promis à l'Islam. Mais l'on ne peut dire que ces livres sont difficiles à comprendre et que nous devons écrire des livres spécifiques pour les enfants, pour les jeunes d'ici. Et on ne peut pas dire que ces livres ont été écrits seulement pour les gens du Pakistan ou de l'Inde. Eh bien, tous ces concepts sont des concepts erronés. On doit encourager les enfants et les jeunes à lire ces livres et les aînés doivent encourager les jeunes en ce sens. Et les organisations auxiliaires aussi doivent encourager les jeunes en ce sens. Si l'on commence à s'écarter de ces livres, on va s'éloigner très loin des paroles du Messie premier l'Islam. Car les paroles du Messie premier l'Islam ont leur force spécifique et l'on peut diluer ces paroles en faisant des résumés. Certes, on a publié plusieurs dires du Messie premier l'Islam sous différents titres. En anglais, par exemple, il y a The Essence of Islam qui a été publié en 5 volumes. Et les anglophones doivent lire ces livres. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des différences entre la traduction et les paroles exactes, mais la traduction est proche de l'original dans une certaine mesure. Et on doit lire les livres qui ont été traduits en entier. J'espère aussi qu'on aura la traduction de l'ouvrage Brahin Ahmadiyya. Ceux qui peuvent lire en anglais doivent lire les livres du Messie premier l'Islam, doivent acheter ces ouvrages et doivent chercher des arguments dans ces ouvrages. Quant à ceux qui peuvent lire l'ourdou, ils doivent avoir la série complète des ouvrages du Messie premier l'Islam. Il y aura une nouvelle édition composée sur ordinateur qui sera publiée, Inch'Allah, avant la Jalsa, nous pourrons avoir quelques volumes. Ces Ahmadis qui n'ont pas cette série doivent acheter ces ouvrages. J'ai cité dans un sermon qu'une dame m'a écrit en disant que c'est en lisant le Messie premier l'Islam ou les explications du Messie premier l'Islam sur des attributs divins qu'elle a commencé à comprendre le Saint-Coran. Donc, pour comprendre le Saint-Coran aussi, l'on doit se tourner vers les ouvrages du Messie premier l'Islam. Qu'Allah nous en donne la possibilité. Amin.